France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20 en cette journée internationale des droits des femmes. Nous avons invité ce matin une avocate qui se présente comme pro-salariée et féministe. Bonjour Élise Fabing.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris. Votre spécialité, c'est le droit du travail. Ces dernières années, on a connu des mouvements MeToo dans de nombreux milieux professionnels. Ils ont contribué de manière certaine à libérer la parole des femmes pour dire stop au harcèlement et aux violences. Mais est-ce que ça a réellement amélioré les choses dans les entreprises ?
Alors, moi, j'ai forcément un prisme un peu pessimiste puisqu'on vient me voir quand ça va pas. Donc, j'ai une augmentation de dossiers ces derniers temps qui est assez inquiétante.
Mais ça veut dire qu'il y a plus de cas ou qu'il y a plus de femmes qui témoignent ?
Je ne sais pas. J'ai pas réellement de statistiques. Ce que je vois, c'est que notre justice sociale est toujours pas réformée, que malheureusement, les politiques ne se sont pas emparées du sujet. Alors c'est vrai que les femmes, ces mouvements de libération de la parole, ça leur a permis de se sentir moins seules et de moins culpabiliser, parce qu'il y a quand même beaucoup de remises en question quand on est victime de violences au travail, que ce soit du harcèlement ou une discrimination sexiste. Et c'est vrai qu'elles se sentent moins seules. Et enfin, la presse s'est emparée de ce sujet. Ça, c'est vraiment l'avancée que j'ai pu constater. Et les entreprises ont maintenant peur de ces témoignages anonymes. Elles ont peur pour leur marque employeur et le risque réputationnel est important pour elles.
Vous avez évoqué le harcèlement, les discriminations. Quels sont les principaux problèmes ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Les sujets sur lesquels vous êtes le plus sollicité ?
Alors moi, j'ai énormément de discriminations sexistes. Alors évidemment, des discriminations salariales, mais aussi des discriminations liées à la maternité et de plus en plus de discriminations de femmes seniors. Et ça, c'est important d'en parler aussi parce que c'est un sujet un peu tabou. Mais c'est vrai qu'une femme a une fenêtre de tir de carrière dans certaines entreprises extrêmement limitée, puisqu'avant 40 ans, elle est potentiellement une future mère et après 50 ans, elle semble périmée.
Et d'ailleurs, à propos des femmes enceintes et de la maternité, la défenseur des droits a alerté également sur le sujet hier. Mais pourtant, la loi les protège. Lors d'un entretien d'embauche, on n'a pas le droit de demander à une femme si elle a l'intention de faire un enfant un jour ou pas.
Bien sûr, mais quelle est la sanction ? Aucune. Déjà, il faut réussir à prouver qu'on a posé cette question au cours d'un entretien. Et puis en plus, c'est un biais. Parce qu'évidemment, un employeur qui reçoit une jeune femme en âge d'enfanter, ça va influencer son choix. Parce qu'on a ce congé maternité qui peut pénaliser les femmes parce qu'il n'est pas obligatoire pour les hommes.
Et ces problèmes de discrimination, de harcèlement, est-ce que c'est partout pareil, que ce soit des petites ou des grosses entreprises, et quel que soit l'âge, le niveau hiérarchique ou le secteur d'activité ?
Malheureusement, oui. Aucun type d'entreprise ne peut y échapper. Alors, parfois, c'est systémique. Je pense à certaines grandes entreprises qui mettent des pressions phénoménales sur leurs salariés en termes de facturation. Je pense aux cabinets de conseil, notamment, au secteur de la finance, donc avec des volumes horaires complètement hallucinants, qu'il est difficile de tenir pour quelqu'un de normalement constitué.
Mais ça, c'est hommes et femmes confondus ou plus
c'est femmes ? Ça, c'est hommes et femmes confondus. Sauf qu'en réalité, le marché de l'emploi étant peu fluide et les femmes étant plus précaires dans l'emploi, ça pénalise principalement les femmes. Et puis, il y a aussi l'accident de parcours, le manager toxique mis au mauvais poste à un mauvais moment. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment l'entreprise va réagir. Et malheureusement, l'entreprise n'est pas forcément bien formée et informée sur ces situations-là. On a des enquêtes internes qui sont parfois mal faites, biaisées. Et dans ce cas-là, aucune solution RH n'est possible. Et c'est vrai que c'est là que ça devient particulièrement injuste parce que c'est la double peine pour la victime qui doit quitter l'entreprise parce que le contrat de confiance est rompu et qu'il lui est impossible de se projeter dans cette boîte et qui doit retrouver un nouvel emploi.
Et quand ce sont des manageuses ou des patronnes et non des patrons, est-ce que ça se passe mieux ?
Pas forcément. Pas forcément, malheureusement. Mais souvent, un manager toxique et harcelant est lui-même harcelé.
Voilà. Il y a toujours un N plus 1 au-dessus. Hein,
il y a toujours un N plus 1 au-dessus. Il y a une pression du chiffre et il y a un mode de management qui peut être violent. Et c'est vrai que les managers en France sont extrêmement mal formés aussi.
Est-ce que vous avez constaté un effet crise du Covid aussi sur ces violences ou sur ces discriminations ?
Alors évidemment, puisque on vit une crise économique assez importante et c'est souvent un miroir grossissant des pratiques managériales déviantes, hein, ça fait pas émerger le meilleur de chacun. Et les salariés sont de plus en plus coincés dans des situations extrêmement difficiles à vivre, toxiques, avec une indemnisation Pôle emploi qui est en baisse. Donc, ça conduit certains salariés à serrer les dents, à essayer de tenir à un poste insupportable. Et souvent, ils viennent me voir quand le corps lâche. Parce que le corps lâche, il faut le savoir.
Et comment on fait pour prouver qu'il y a harcèlement, qu'il y a discrimination? Parce que c'est déjà, il faut faire un effort, et pour certains c'est un effort hein, d'aller voir un avocat, d'oser parler, mais il faut avoir la preuve, sinon ça sert à rien.
Bien sûr, et c'est vrai que j'ai beaucoup de salariés qui viennent me voir trop tard, parce que l'erreur classique, c'est d'alerter les RH à l'oral, d'aller les voir et de tout déballer.
Et j'ai il faut pas faire ça.
Ben non, j'ai pas mal de salariés qui ont fait ça, et qui se sont retrouvés avec une convocation en entretien préalable à un éventuel licenciement avant qu'il y ait la moindre trace écrite. Donc avant toute dénonciation de fait de harcèlement, de l'écrit, s'il vous plaît, il faut susciter l'écrit sans cesse.
Alors c'est quoi l'écrit? C'est des textos par
exemple?
C'est
des textos, des WhatsApp, des Slack, des Messenger, le canal, on s'en fiche. Mais ce qui est important pour un juge prud'homal et même pour une enquête interne, pour trouver potentiellement une solution RH, c'est d'avoir des preuves écrites. Des enregistrements, ça marche aussi depuis une jurisprudence assez récente. Donc, à vos enregistrements, il y a des applis qui existent. On appuie juste sur un bouton et ça permet d'enregistrer son agresseur. C'est extrêmement utile.
Tout à l'heure, vous nous avez dit que les politiques ne se sont pas emparés de ce sujet. Et d'ailleurs, vous faites, avec un collectif d'expertes qui s'appelle Femmes et Travail, 10 propositions aux candidats à la présidentielle. Et il y en a une, je sais, qui vous tient particulièrement à cœur. C'est sur les sanctions.
Oui, c'est sur les sanctions parce que aujourd'hui, la sanction d'un harcèlement moral, alors c'est un chiffre de 2019, c'est 7100 euros.
En moyenne.
En moyenne. Donc c'est rien du tout. C'est absolument pas contraignant pour une entreprise. C'est pas dissuasif. Donc ça ne les pousse pas à appliquer des politiques sociales favorables aux salariés et à la lutte contre les violences au travail.
Donc vous voulez quoi, vous?
Moi, je veux 6 mois de salaire. Voilà. Parce qu'il faut que ce soit à la hauteur de la réalité du préjudice subi de la victime. Et j'insiste aussi sur le fait qu'en cas de licenciement abusif, quelle que soit l'ancienneté de la salariée, il faut une condamnation à hauteur de 6 mois de salaire également.
Et la cause des femmes se joue aussi devant les prud'hommes. Élise Fabing, avocate. Et je vais citer aussi votre livre qui est sorti l'an dernier, Manuel contre le harcèlement au travail. Il y a tout plein d'informations justement sur ces questions. Il a été écrit pour informer les salariés de leurs droits. Merci Élise Fabing, invitée
du 5-7.
France Inter.